La visite du 16 février du président du Parlement iranien en Syrie et au Liban portait un message important pour ces deux pays. Une semaine après avoir été reprise par l'armée syrienne, l'autoroute stratégique Damas-Alep a été rouverte samedi à la circulation entre le sud et le nord de la Syrie. Et pour la 67e journée de mobilisation des Gilets jaunes, des centaines de personnes ont répondu à l'appel national à manifester à Lille. Ce samedi 22 février, 10 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. C'était les titres. En voici le journal. Le dimanche 16 février, le président du Parlement iranien, Ali Larijani, porteur d'un message important pour Damas et Beyrouth, a commencé sa tournée régionale en se rendant d'abord en Syrie. À l'issue de sa visite, Larijani a participé à une conférence presse. Les coopérations économiques entre l'Iran et la Syrie ont commencé depuis un ou deux ans. Certaines de ces coopérations sont la continuation des précédentes. Les hommes d'affaires iraniens souhaitent coopérer avec leurs homologues syriens pour développer la reconstruction de la Syrie et développer les relations économiques. De même, certains industriels sont prêts à investir en Syrie. Après sa visite en Syrie, le président du Parlement iranien s'est rendu au Liban. Larijani a transmis la lettre du président iranien Hassan Rouhani à son homologue libanais Michel Aoun, dans laquelle l'accent est mis sur le développement des relations irano-libanaises. Le président iranien a également invité Aoun à une visite en Iran. « Nous sommes prêts à coopérer dans tous les domaines avec le gouvernement libanais. Nous pouvons par exemple aider le Liban dans la construction d'installations électriques. Mais la décision revient au peuple libanais », a déclaré M. Larijani lors d'un point de presse à Beyrouth. On peut clairement dire que cette visite du président du Parlement iranien en Syrie et au Liban a été porteuse d'importants messages. La visite a été effectuée en soutien à l'armée et au gouvernement syrien pour leurs opérations à Idlib. Lors de la rencontre, le rôle de l'Iran dans la période de reconstruction a été souligné pour les parties régionales et internationales. Une semaine après avoir été reprise par l'armée syrienne, l'autoroute stratégique Damas-Alep a été rouverte samedi à la circulation entre le sud et le nord de la Syrie, a annoncé l'agence de presse officielle syrienne SANA. Cette réouverture intervient après que l'armée a dégagé la route, enlevé les barricades et restauré les parties endommagées. Le 14 février, l'armée syrienne a déclaré qu'elle avait sécurisé les abords de l'autoroute Damas-Alep, aussi appelée l'autoroute M5 ou route internationale, à la suite de combats contre les terroristes. L'armée syrienne a lancé il y a deux mois une vaste opération pour sécuriser la M5 dans les campagnes des provinces d'Idlib et d'Alep, dans le nord de la Syrie. La reprise de la route est une victoire stratégique pour l'armée syrienne, car celle-ci relie la capitale politique Damas à la capitale industrielle Alep. Le 15 février, les médias officiels ont rapporté que les autorités syriennes avaient commencé à enlever les gravats et les barricades laissées par les terroristes qui contrôlaient certaines parties de la route depuis 2012 dans les campagnes d'Idlib et du sud d'Alep. La Syrie a affirmé que le mécontentement des États-Unis quant au retour de la vie normale à Alep est dû à la déception en raison de l'échec de leur plan représenté dans la propagation de terrorisme et de chaos, ce qui stimule les Syriens à poursuivre la traque des terroristes et leurs commanditaires jusqu'à la libération de derniers pouces des territoires de la République arabe syrienne, du terrorisme et de la présence étrangère illégale. Des centaines de personnes ont répondu à l'appel national à manifester à Lille ce samedi 22 février pour la 67e journée de mobilisation des Gilets jaunes. Des tensions ont rapidement éclaté entre les manifestants et les forces de l'ordre. 10 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Près de 700 personnes, selon la préfecture, ont pris part au rassemblement qui a commencé en début d'après-midi, place de la République, à proximité du centre-ville. Dans la foule se trouvaient des manifestants, pour la plupart venus des Hauts-de-France, mais aussi de régions parisiennes ou même du Var. La manifestation a rapidement donné lieu à des débordements quand des manifestants ont tenté de suivre l'itinéraire souhaité vers le centre-ville interdit par un arrêt préfectoral de la veille et refusé de suivre le parcours imposé par les forces de l'ordre. Au total, 3200 personnes se sont réunies dans toute la France, hors Paris, selon des chiffres communiqués par des sources concordantes. Avant la manifestation, Jérôme Rodriguez, une figure du mouvement, a été interpellé à l'occasion d'un contrôle d'identité, ce qui a entraîné quelques échauffourées. Il a été remis en liberté dans l'après-midi. C'est ciblé et gratuit. C'est juste pour dissuader et créer une tension, a regretté Fawzi Lelouch, une autre figure du mouvement présent dans le cortège. Moscou condamne Washington pour avoir simulé une frappe nucléaire contre la Russie. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, a déclaré samedi que de telles actions montrent clairement que Washington est déterminé à poursuivre la voie de l'affrontement et à continuer d'abaisser le seuil d'utilisation des armes nucléaires. Les États-Unis poursuivent une série d'exercices de simulation de frappe contre la Russie. Nous condamnons de telles actions car elles montrent clairement que Washington est déterminé à poursuivre la voie de la confrontation et à nous rapprocher de l'échéance de recours aux armes nucléaires, a dit Ryabkov. Les États-Unis se lancent dans un jeu très dangereux au lieu de se concentrer sur les efforts pour renforcer le système de contrôle des armements qui couvrirait également les armes nucléaires, a dit le diplomate russe. Rappelons que Moscou est d'avis qu'il ne peut y avoir de vainqueur dans une guerre nucléaire qui ne doit jamais être déclenchée par ailleurs. Un responsable de haut rang du Pentagone avait récemment déclaré aux journalistes que les États-Unis avaient mené un exercice militaire simulant une attaque contre la Russie en utilisant des armes atomiques de faible puissance installées en Europe. Les États-Unis sont le seul pays à avoir utilisé des armes nucléaires durant la Seconde Guerre mondiale contre, rappelons-le, les habitants innocents d'Hiroshima et de Nagasaki. Et enfin, pour fermer le journal, une page de l'actualité africaine. L'Amérique de Tibor Nagy semble perdre de plus en plus en RDC. Les coopérations militaires US-RDC ne s'étant toujours pas concrétisées, de mauvaises nouvelles s'accumulent pour Washington. De son côté, la Chine a toujours maintenu ses liens proches avec la RDC. D'ailleurs, ce 19 février 2020, le nouvel ambassadeur chinois, Zhu Ling, a fait état des consensus dégagés pour sauvegarder les intérêts communs dans les relations bilatérales entre les deux pays. Alors que Huawei s'apprête à faire irruption dans le Grand Congo, on apprend que le président Tshisekedi a été invité à Moscou par la personne de Poutine qui se plaît en ce moment à refaire le coup de RCA un peu partout en Afrique. On apprend aussi que le gouvernement congolais a l'intention de rouvrir le premier réacteur nucléaire installé en Afrique subsaharienne à l'arrêt depuis 1994. Ce réacteur expérimental du Centre régional de recherche nucléaire de Kinshasa est installé près de l'université dans la capitale congolaise. Le réacteur a en théorie pour mission de mener des recherches médicales, biologiques, génétiques et industrielles. Le Conseil des ministres a aussi autorisé le ministre de la Recherche scientifique à aller faire part de la position de la RDC à l'Agence internationale de l'énergie atomique IAEA au cours d'une réunion à Vienne au courant de ce mois de février 2020. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Des CA intégrés syro-russes opérationnels, un feu d'artifice géant attend autant Israël-USA. C'est le titre du commentaire politique. Le prix que l'axe USA-OTAN exige à la Turquie en échange de son soutien hypothétique à l'aventure néo-ottomane d'Erdogan dans le nord syrien se résume en quelques mots. Couper tout lien avec la résistance, entrer en guerre contre la Russie. Après avoir perdu Alep et plus précisément l'autoroute stratégique M5, on n'a rien de temps et tenter à Nérap de se racheter avant d'y laisser des plumes, voici Erdogan faisant face à ce que ni les États-Unis, ni Israël et encore moins l'OTAN n'ont osé faire, à savoir se battre contre la DCA intégrée syro-russe. Ceci veut dire que les chasseurs turcs devront bombarder l'armée syrienne et ses alliés russes et de la résistance si Erdogan veut que l'Occident lui donne sa caution à ottomaniser Idlib, une caution qui, vu les rivalités gazières en cours en Méditerranée, ne viendra évidemment jamais. Ces trois derniers jours, les Mampas du S ont tenté à deux reprises d'abattre des Su-24 russes et même un Tu-214R, un gros avion de reconnaissance, mais le succès n'a pas été au rendez-vous. Ce qui revient à dire que la Russie continue à se servir, tout comme la Syrie, de ses bombardiers pour raser les positions des terroristes et que l'obstination d'Ankara risquerait d'exposer davantage les militaires turcs aux bombes russes. Ankara en est désormais à penser aux patriotes, mais leur usage demande à ce que les officiers US s'y impliquent, ce qui serait bien difficile d'obtenir, les USA agissant toujours dans l'ombre de leurs alliés. Selon le site militaire russe Aviapro, la Turquie a déployé l'artillerie lourde MLRS T-300 Kassirkan à Idlib, dispositif qu'elle croit capable de viser les batteries de missiles S-400 russes et S-300 syriens à la base aérienne de MIB. Selon les types de munitions utilisées, la gamme de MLRS turc T-300 Kassirgan peut atteindre de 40 à 110 km, ce qui permet aux terroristes de frapper la base aérienne militaire russe de MMM à une très longue distance. Compte tenu de l'énorme zone de destruction, une seule frappe du T-300 Kassirgan MLRS pourrait provoquer de lourdes pertes et dégâts, y compris à l'intérieur de la base aérienne de Hemeib. Une base qui, rappelons-le, abrite des dizaines de chasseurs et bombardiers de l'armée de l'air syrienne et russe et que des centaines d'attaques aux drones US, OTAN et Israël n'ont pu jusqu'à présent affecter. La Turquie est-elle en train de commettre l'irréparable? Visiblement. Samedi, la défense syrienne a commis un communiqué mettant en garde la Turquie contre les conséquences d'une guerre aérienne d'envergure et surtout le fait que les S-300 syriens sont prêts à réagir et à protéger l'intégrité aérienne du pays, une des SAA qui couvre l'Est, l'Ouest et le centre syrien. Cette annonce est plus qu'un simple avertissement. Il signifie en effet que la DSA intégrée syro-russe s'activera à la moindre provocation et de la manière la plus active que ce. Et ceci serait aussi le cas au cas où MMM et partant la présence russe en Syrie serait visée. Désormais, les S-300 syriens toucheront sans avertissement tout avion de combat turc violant l'espace aérien syrien. Des missiles seront lancés dès qu'un avion militaire turc tentera de franchir les frontières syriennes. La coordination est donc totale avec la Russie, Damas ayant décidé d'utiliser les S-300 mais aussi d'autres systèmes de défense aérienne, y compris le OSA, S-75, S-125, S-200, Buk, TOR, système de défense aérienne Shell S, soit un cocktail aérien bien explosif propre à pulvériser l'armée de l'air turque.